Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En Vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, on dirait vraiment le paradis de John Cheever. Né à Quincy, Massachusetts en 1912 et mort à Ossining dans l'état de New York en 1982, John Cheever est surtout renommé pour ses nouvelles. Il en a écrit plus de 200. Le recueil The Stories of John Cheever a d'ailleurs obtenu le prix Pulitzer de la fiction en 1979. L'œuvre de Cheever compte aussi 5 romans, dont The Wapshot Chronicle, lauréat du National Book Award en 1958. Le décor de ses écrits, les immenses banlieues américaines autour de New York et en Nouvelle-Angleterre, lui a valu d'être surnommé le Tchekhov des faubourgs. Il est en effet considéré aux États-Unis comme l'un des auteurs ayant, avec Updike, le mieux dépeint la vie des classes moyennes américaines durant l'après-guerre. Avec On dirait vraiment le paradis, le dernier roman de John Cheever, l'auteur saisit une fois encore toutes les nuances de nos existences et nous offre un plaidoyer inédit en faveur d'une nature préservée. Lemuel Sears mène une vie paisible à Manhattan. Conscient de son vieillissement, il vit dans la crainte de ne plus jamais connaître l'amour. Un jour, il se rend dans la petite ville de Janice pour patiner sur l'étang et découvre que celui-ci est utilisé comme dépotoir. Révolté, il entame une procédure judiciaire pour rendre à Janice son paysage bucolique. Entre politiciens véreux et mafiosi, Lemuel Sears croisera la route de femmes et d'hommes à la recherche, comme lui, d'un peu de beauté. Cette histoire est destinée à être lue au lit dans une vieille maison par une soirée pluvieuse. Les chiens dorment et les chevaux de selle, Dombey et Trey, s'agitent dans leur stall de l'autre côté du chemin en terre battue, par-delà le verger. La pluie fine est la bienvenue, même si elle n'a rien d'indispensable. Les nappes phréatiques sont à un niveau satisfaisant, la rivière voisine est bien remplie, les potagers et les vergers, c'est un moment crucial de la saison, sont parfaitement irrigués. Presque toutes les lumières sont éteintes dans le petit village non loin de la chute d'eau où la filature voilà si longtemps fabriquait du Vichy. Les murs en granit de la filature se dressent toujours sur les berges de la grande rivière et la demeure du propriétaire, cernée par ses 4 colonnes corinthiennes, trône encore sur la seule colline de la ville. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un village assoupi, coupé d'un monde en pleine mutation. Pourtant, dans le journal hebdomadaire, on signale souvent des objets volants non identifiés. Ils ont été vus par des femmes au foyer qui étendent leurs lessives ou des sportifs qui chassent l'écureuil, mais aussi par des membres éminents de la communauté, tels le vice-président de la banque ou l'épouse du chef de la police. En traversant le village du nord au sud, on ne pouvait que remarquer le nombre de chiens, leur joie de vivre et aussi qu'ils étaient tous sans exception des bâtards, mais des bâtards chez qui l'on distinguait encore la parenté et la race. On découvrait ainsi un caniche à poils lisses, un herdel aux pattes très courtes ou un animal qui ressemblait à un collet à l'avant et un danois à l'arrière. Le mélange de ces sangs, un sang neuf, pourrait-on dire, donnait une meute des plus joyeuses qui filait par les rues désertes, comme si elle était en retard pour quelque réunion, dîner ou rendez-vous important, indifférente à la solitude dont semblait souffrir une partie de la population. La ville s'appelait Janice, du nom de la première épouse du propriétaire de la filature. L'un des détails les plus extraordinaires à propos de ce village et de sa place dans l'histoire, c'est qu'il ne possédait aucun fast-food franchisé. C'était très rare à l'époque. Cela laissait croire que la petite ville souffrait de quelques malédictions, d'une grande pauvreté ou d'un manque d'audace de la part de ses résidents. En réalité, il s'agissait simplement d'une erreur dans les ordinateurs qui faisaient autorité quant au choix de l'emplacement des futurs fast-foods. Une autre particularité historique de l'endroit était que ces vastes manoirs, des reliques d'un autre temps, n'avaient pas été transformés en maisons de santé à destination de l'immense population des comateux et des mourants que l'on maintient en vie, contre toute raison, grâce à quelque invention médicale novatrice. À l'extrémité nord de la ville se trouvait l'étang de Bisley. Un plan d'eau profond, en forme de bras, replié aux berges recouvertes de taillis. Dans ce paysage aquatique et verdoyant, un peintre du XIXe siècle aurait mis au premier plan une jolie femme à dos de mulet, penchée sur l'enfant qu'elle tient dans les bras et accompagnée d'un homme muni d'un bâton. Ainsi, l'artiste aurait pu intituler son œuvre « La fuite en Égypte », alors qu'il souhaitait uniquement illustrer le plaisir troublant que lui inspirait ce beau paysage par une journée d'été. Un vieil homme n'est qu'une pauvre chose, une canne recouverte d'un manteau en loques, sauf lorsqu'il aperçoit le plumage éclatant de l'oiseau nommé Courage. Ici, le cardinalis virginius. Et là, son cœur bondit. Mais que faisait donc un cardinal dans la 78e rue Est ? Il appela sa fille aînée, qui habitait Janice, pour savoir s'il pouvait venir faire du patin. Leur relation reposait sur une affection très pragmatique où dominait le scepticisme. Elle déclara qu'il faisait très froid, qu'il n'avait pas neigé et que même si elle n'avait vu aucun patineur sur le grand étang, elle le supposait gelé. Les patins de son père, elle le savait, se trouvaient au grenier avec ses infolios de piranèse et sa collection de papillons sous verre. C'était un dimanche matin de la fin du mois de janvier et il prit un train régional en direction de la province où résidait sa fille. Il s'appelait Lemuel Sears. C'était, comme je l'ai déjà dit, un homme âgé, mais toujours en pleine possession de ses moyens. Il n'avait pas besoin d'aide pour traverser la rue. Il était suffisamment vieux pour se souvenir de l'époque où les horizons de son pays étaient dominés par des ormes magnifiques et larmoyants, en forme de verre à vin, et où la plupart des baignoires dans lesquelles on se glissait avaient des pattes griffues de lion. Suffisamment âgé pour se rappeler l'espoir qu'avaient suscité les voyages en dirigeable, et il n'oublierait jamais non plus être entré au pas dans l'une des capitales du Saint-Empire romain germanique. Les bombardements successifs des alliés et de leurs ennemis n'avaient rien épargné de ce vaste carrefour qui défiait la taille humaine. Dans la cathédrale en ruine gisaient des morts qui n'avaient même pas été enterrés. Il était armé du premier fusil à répétition, un M1, prêt à tuer l'ennemi et à défendre de sa vie la liberté de parole, de religion et de circulation. Sa fille déposa un baiser léger sur sa joue. Leur affection était, comme je l'ai dit, sceptique et pourtant profonde. Elle était la fille de la très sainte Amélia, sa première épouse. Elle lui tendit ses patins et lui proposa de le conduire à l'étang, mais il préféra s'y rendre à pied. L'étang se trouvait à 6 kilomètres. Il portait un costume avec un gilet et une toque fourrée qu'il avait acheté dans un pays d'Europe de l'Est, où il se rendait souvent en voyage d'affaires pour un fabricant de connecteurs électriques. Il avait les cheveux blancs qui poussaient comme du chien-dent et la peau hâlée par ses sorties en catboat. Il appartenait à la génération et à la classe sociale qui considère le pardessus comme un ultime recours. Bien sûr, il portait des gants. L'étang où il se rendait s'appelait l'étang de Bisley, mais apparemment tout le monde avait oublié qui étaient les Bisley. L'étang mesurait à peu près 4 kilomètres de bout en bout. Il avait l'air gelé, bien qu'il n'y eût que 4 ou 5 patineurs sur la glace par ce dimanche après-midi, relativement doux. En découvrant la scène, Sears songea que les peintres hollandais du XVIIIe et du XIXe siècle s'étaient emparés des scènes de patinage et qu'à l'époque où les goûts du marché de l'art étaient moins chaotiques, il y avait généralement à la fin de chaque vente aux enchères une dizaine de scènes de ce genre invendues, appuyées contre un porte-parapluie, invendues lui aussi, aux côtés du clavecin dont personne n'avait voulu. Certes, Bruegel avait peint quelques scènes de la sorte, mais Sears en avait vu une, un dessin, d'une époque très antérieure, du XIIe siècle, croyait-il, et il se remémorait toujours avec plaisir la théorie d'Alan Gardner, ce paléontologue anglais, qui avait bâti sa carrière sur la thèse démontrant que le patinage, ou le patin, puisque le mot patinage est apparu bien après, avait conféré à l'Homo sapiens, en tant que chasseur, la vélocité grâce à laquelle il avait pu vaincre l'homme de Néandertal dans leur lutte pour la suprématie. Cela se passait voilà 200 000 ans, la majeure partie de la planète était couverte de glace et les patins étaient fabriqués avec le crâne du canard à bec plat appelé Judas. La supercherie de l'hypothèse d'Alan Gardner ne fut révélée que très tard dans sa carrière, mais Sears trouvait éternelle la poésie de ses idées, car la légèreté qu'il ressentait sur les patins semblait avoir la profondeur d'une expérience ancienne, sans oublier qu'il avait toujours eu un faible pour les tentatives destinées à duper le monde universitaire. Il enfila ses patins et s'éloigna du bord. Patiner était presque aussi naturel pour lui que nager. Il se demanda pourquoi il y avait si peu de patineurs et interrogea une jeune femme. Elle était à peine en âge de se marier, elle avait les cheveux bruns et des anneaux dorés aux oreilles, et elle tenait une crosse de hockey comme un parasol. je sais, dit-elle, mais vous voyez, il y a plus d'un siècle que l'étang n'a pas été gelé comme ça. Il y a plus d'un siècle qu'il n'a pas fait aussi froid, sans neige. N'est-ce pas divin ? J'adore, j'aime, j'adore. » Il avait entendu cette exclamation mot pour mot dans la bouche d'une amante. Il y avait si longtemps qu'il ne se souvenait plus ni de son nom, ni de la couleur de ses cheveux, ni des acrobaties érotiques auxquelles il s'était livré à ce moment-là. Il patina longtemps. Le plaisir de la légèreté semblait, comme la jeune femme l'avait dit, miraculeux. Parcourir allègrement une longue étendue de glace sombre donnait à Sears le sentiment de rentrer chez lui. Enfin, un voyage long et froid. Il regagnait un lieu où son nom était connu et apprécié, où les lampes brûlaient dans les pièces et le feu de l'âtre. Il avait l'impression que tous les patineurs se déplaçaient sur la glace avec la joyeuse conviction d'être chez eux. Même si, pour un bon nombre, dont Sears, ce n'était rien d'autre qu'une chambre et un lit désert, patiner dans la glace sombre lui donnait la conviction de revenir à la maison. Un esprit plus sceptique aurait pu souligner que cela montrait combien le sentiment d'être chez soi est une illusion éphémère. Il y avait un coucher de soleil hivernal, et dans cette impression spectacle de lumière et de couleur, Sears délassa ses patins et regagna son appartement de New York. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Tiphaine à la technique de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir le très beau roman de Djalil Amadou Amar, Les Impatientes. Je vous souhaite une belle semaine, cocooning sur Esprit Occitanie et des lectures revigorantes. Et surtout, n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.